Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Témoins de l'Invisible, l'émission que nous réalisons, Joël Ménard et moi-même, au sujet de l'histoire des apparitions d'OVNI. OVNI, acronyme bien connu aujourd'hui qui désigne les objets volants non identifiés. Nous relatons, nous racontons l'histoire des apparitions d'OVNI, nous en sommes à l'année 1954. Cette année est une année, on va dire, charnière, parce que, on peut le dire, vulgairement parlant, les ovnis ont littéralement déboulé dans le ciel européen et plus particulièrement dans le ciel de France. Joël Ménard, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'un des pionniers de la recherche ufologique en France. Vous avez été le directeur.
C'est beaucoup dire.
Oh, l'un des grands quand même aujourd'hui en France. Vous avez dirigé la revue Lumière dans la nuit, qui est une revue mythique pour tous ceux qui s'intéressent à la question. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, Les apparitions d'OVNI, a été donc publié au Mercure Dauphinois. Et c'est un livre que je conseille à tous nos auditeurs si on veut se faire une idée de ce que sont ou ce que ne sont pas les OVNI. Voilà, donc nous en sommes à l'année 1954, année tout à fait extraordinaire. Le mois de septembre, le mois d'octobre ont été le théâtre de multiples apparitions d'OVNI, vues souvent de manière très proche. N'est-ce pas, Joël ?
Oui, c'est ça qui est extraordinaire dans les événements de l'automne 1954, plus exactement de la période qui va de fin août à la mi-novembre, c'est que il y a quantité d'observations qui concernent des objets vus au sol ou très près du sol, mais bien souvent au sol, et aussi d'observations qui concernent des personnages vus à bord ou à proximité de ces objets. La dernière fois, nous avons interrompu l'énumération chronologique des événements à la date du 4 octobre, du 4 ou du 5 octobre, date remarquable parce que entre le 4 et le matin du 5, on compte pas moins de 7 observations très rapprochées. Alors, j'en fais un bref récapitulatif. Un cas à Villers-le-Tilleul dans les Ardennes, un autre à Chalex en Dordogne, un à Saint-Perdoux dans le Lot, un autre près de Taupignac en Charente-Maritime. Et puis finalement, deux cas très rapprochés dans le temps comme dans l'espace. Un à Maigrite, dans les Côtes du Nord, qui s'appelle maintenant les Côtes d'Armor. Un peu avant minuit. Et l'autre, deux ou trois heures plus tard, à Loctudy, dans le Finistère. C'est la fameuse histoire du boulanger Pierre Lucas qui était sorti chercher de l'eau dans deux seaux et alors qu'il ramenait ses deux lourds seaux d'eau dans son fournil, il a vu un objet en forme de soucoupe à coupole qui s'est posé sur la route. Et qui a d'ailleurs laissé des traces, mais avant de redire deux mots des traces, en reparlant de ce qui s'est passé, Pierre Lucas est rentré dans le couloir pour rentrer ses seaux, et à ce moment-là, quelqu'un a posé sa main sur son épaule. Il s'est retourné, il a vu un personnage d'aspect totalement insolite. De frayeur, il a lâché ses deux seaux d'eau qui se sont répandus dans le couloir. Et il était terrorisé, il a appelé son patron qui était rentré peu de temps avant et il lui a crié en breton, ce que je ne saurais faire, « Vite, vite, descends avec un balai !» Et quand le patron de Pierre Lucas est arrivé dans le couloir, il était trop tard. Le petit personnage avait disparu, il y avait simplement je ne sais combien de litres d'eau répandue dans le couloir, et Pierre Lucas qui tremblait d'émotion. Le lendemain, on a retrouvé des traces très significatives à l'endroit où Pierre Lucas avait dit avoir vu se poser la soucoupe. À cet endroit-là, l'asphalte était fondu. Et rien d'autre que l'apparition de l'engin ne pouvait expliquer cette anomalie.
Ouais. C'est typique de Descartes 1954, où on a des choses extraordinaires qui surviennent souvent au milieu de scènes de la vie ordinaire de l'époque, vie paysanne, vie artisane. C'est tout à fait
extraordinaire. Tout à fait. Ça frappait des gens ordinaires dans des situations tout à fait ordinaires, elles aussi. Ça frappait, j'ose pas dire tout le monde, bien sûr, mais des gens normaux dans des situations normales, pas du tout préparés à voir ça. Et puis, ça pouvait aussi frapper d'autres personnes que des gens. Par exemple, je rappelle que une actrice de cinéma bien connue,
Michèle Morgan, je crois, non ?
Oui, Michèle Morgan. Vu, dit-elle, une soucoupe volante, alors qu'elle était à Paris, du côté de l'esplanade des Invalides, je crois. Ouais. Donc, on peut poursuivre notre énumération des événements de 1954, non sans rappeler que ce qui caractérise avant tout la vague de 1954, c'est une grosse centaine, environ 102 ou 103 à ma connaissance, de cas qui comportent l'observation de personnages, ce qui ne s'était quasiment pas produit auparavant. En fait, il y avait eu des cas antérieurs à l'automne 54, aussi bien en France que dans d'autres pays, mais il n'avait reçu aucune publicité. Ouais. Là, en 54, on a une centaine de cas avec vision de personnages et qui ont fait l'objet de publications dans les journaux de l'époque. Alors, au risque de me répéter, je rappelle que on peut se documenter sur ces bizarreries en se rendant par exemple dans des bibliothèques ou dans les centres d'archives départementales dans lesquels on peut consulter gratuitement les journaux de l'époque, et en consultant les journaux notamment de septembre et octobre 1954, on peut s'apercevoir qu'un très grand nombre d'observations ont été signalées, dont une centaine de cas avec personnages, ce qu'on appelle dans notre jargon des RR3, c'est l'abréviation de rencontres rapprochées du troisième type, ce qui veut dire avec vision de personnages. Mais il n'y a pas que ces cas-là, il y a aussi de simples observations de ce qu'on appelait alors des soucoupes volantes. Au total, tout ça représente un bon millier de cas.
C'est énorme, hein. On a du mal à ça. J'ai fait ce que vous m'avez conseillé. Je suis allé aux archives départementales d'Eure-et-Loire, donc à Chartres, et j'enjoins tous nos auditeurs, toutes nos auditrices à faire de même. Et dans les journaux locaux de l'époque, l'Éco-Républicain et la République du Centre, eh bien, il y a une observation pratiquement chaque jour en septembre, octobre de l'année 1954. C'est assez stupéfiant. Autant le dire tout de suite.
C'est tout à fait stupéfiant. Et autre chose est stupéfiant, c'est le fait qu'aujourd'hui, presque tout le monde a oublié ces événements ou n'en a jamais eu connaissance. Bon, les personnes d'un certain âge ont eu tout le temps qu'il fallait pour oublier ça. Quant aux jeunes, eh bien, très souvent, ils n'en ont jamais entendu parler. Je me souviens d'avoir vu un livre illustré, apparemment bien conçu, sur l'histoire du XXe siècle. Quand on regarde à l'année 1954, il est question de Marcel Cerdan, d'Édith Piaf, de la longueur des robes des femmes qui avaient diminué de 2 ou 3 centimètres par rapport aux années précédentes, peut-être, je sais pas, ou augmenté, peu importe. Mais il n'y a pas un mot sur les extraordinaires événements de l'automne. C'est comme ça. Ces choses-là passent très mal à la postérité. Oui. Alors, je vous propose qu'on continue à explorer autant que possible par ordre chronologique. Enfin, pas explorer, mais à survoler. On ne peut guère faire plus que survoler les événements de cet automne 1954. Il ne faudrait pas croire que ces événements étaient limités à la France. Il y a eu des observations simultanément dans de nombreux pays. Dans une dépêche d'Abidjan du 4 octobre, voilà ce qu'on apprend. Des soucoupes volantes ont été aperçues en Côte d'Ivoire. La nouvelle a été connue par un rapport officiel adressé au gouverneur de la Côte d'Ivoire par Monsieur Vernet, administrateur en chef de la subdivision de Banané, ville située à 500 km au nord-ouest d'Abidjan. Les faits remontent au 19 septembre, mais ils n'ont été rendus officiels qu'aujourd'hui, à la suite de demandes de renseignements précis et d'une enquête. Outre la population, le chef de poste de gendarmerie, le médecin, chef du centre médical, le révérend père Huillard, des missions de Lyon, monsieur Vernet, chef de la subdivision, et son épouse, réunis dans la cour de la résidence, aperçurent le 19 septembre 1954, bien sûr, de 20h30 à 21h05, un engin correspondant exactement à ceux observés en France, mais qui ne se posa pas. Il s'agissait d'un point lumineux entouré d'un halo qui d'abord grandit rapidement, se déplaçant et se rapprochant ou s'écartant de l'horizon. Les témoins virent l'engin allumer un phare puissant, tantôt dirigé en haut, tantôt en bas. L'engin de forme ovoïde était surmonté d'une coupole et des rayons lumineux semblaient se détacher de chaque côté. Lorsqu'il disparut, après avoir évolué une demi-heure, les témoins virent très nettement deux halos lumineux de forme ovale se former à l'endroit présumé de l'engin. Celui-ci se déplaçait sans bruit. L'administrateur Vernet a joint à son rapport un croquis détaillé des différentes phases observées ainsi que la forme de l'appareil. Le même jour, à Soubre, à 250 km au nord-ouest d'Abidjan, et dans la même direction, des phénomènes semblables ont été observés. le chef de la subdivision de Soubre a confirmé l'existence du phénomène auquel il a assisté. Voilà un document parmi beaucoup d'autres qui montre que le phénomène n'était pas limité à la France. C'est simplement en France que les observations apparemment ont été les plus nombreuses.
Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue sociologique, on a des témoins qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas des boulangers ou des artisans ou des apprentis bouchers, mais des gens d'un niveau social bien plus élevé. Mais leur observation est la même, ou presque.
Dans le cas du rapport d'Abidjan, effectivement, ce sont des notables, comme on dit, qui ont témoigné. Si on prend l'ensemble des observations en France à la même époque, on a, et dans le fond c'est pas plus mal, des observations qui nous viennent d'un peu tout le monde.
Oui.
Des gens ordinaires, dans la plupart des cas.
Ce qui tente à prouver qu'une lecture sociologique, ou uniquement sociologique du phénomène n'est pas viable finalement.
Oui, en tout cas, c'est peut-être pas l'approche la plus directe. L'approche la plus directe, c'est celle qui consiste, je crois, à prendre connaissance des témoignages. Alors, je vous propose de revenir à l'énumération des cas en France en nous concentrant sur les cas de RR3, c'est-à-dire de vision de ces phénomènes comportant l'apparition de personnages. On en trouve par exemple un cas le 6 octobre, donc au lendemain de l'Octudie, à Cozes, C-O-Z-E-S, en Charente-Maritime. Un autre, le 6, ou peut-être le 7, à Isle-sur-Suippe, dans la Marne. Un autre encore le 7 octobre à Enzi. Dans le cas de Enzi, il s'agit de deux enfants âgés de 9 et 10 ans, les petits Lancelin qui revenaient de l'école et qui ont aperçu dans des conditions qui n'étaient pas idéales parce que le relief a fait qu'ils n'ont pu observer que la partie supérieure du phénomène. Le reste leur étant masqué par une butte, par le relief. Mais eux aussi ont très bien décrit des petits personnages. Et les observations continuent à s'accumuler quasi quotidiennement. Le 12 octobre, on trouve un cas assez remarquable à Vernosque, en Annonay, localité également connue sous le nom de Vernosque-les-Annonay. Ça se situe près d'Annonay, en Ardèche. Vernosque, en Annonay, 12 octobre 1954. À 6 heures du matin, Madame Yvonne S., en fait je connais le nom de cette dame et je crois que ça ne doit pas présenter un gros inconvénient si on le révèle maintenant. Il s'agit de Madame Serre. Donc ce matin-là, du 12 octobre à 6h20 du matin, Madame Yvonne Serre, se rendant à son travail, se trouvait sur un sentier à flanc de coteau lorsqu'elle vit descendre du ciel une sphère blanche, lumineuse, de 3 mètres environ de diamètre. Et cette sphère vint s'immobiliser au-dessus du chemin, à 50 mètres du sol et à 60 ou 70 mètres devant elle. Elle distingua par transparence deux silhouettes dans la boule, celle de deux hommes vêtus de combinaisons. La boule s'éloigna subitement à une allure vertigineuse puis revint au même endroit. Madame Serre n'était plus qu'à une cinquantaine de mètres de cette sphère, qui s'éloignant encore, puis revint une troisième fois et s'en alla cette fois-ci définitivement. Madame Serre, malgré la peur, poursuivit son chemin et dut passer à l'endroit où la boule avait stationné. Lorsqu'elle arriva sur son lieu de travail, l'usine de moulinage de la Roche, elle raconta ce qui lui était arrivé. Elle était évidemment très émue. Elle ne put se mettre au travail et, à 9h du matin, demanda à rentrer chez elle. 48 heures plus tard, elle dut consulter un médecin qui lui prescrivit des calmants. Quelques jours plus tard, cette dame vit les ongles de ses orteils et celui du majeur de sa main gauche se racornir puis tomber. Ces symptômes étaient encore constatables en 1974. Cette année-là, un excellent ufologue qui s'appelait David Duquesnois a recueilli très scrupuleusement le témoignage de Madame Serre et il a pu constater les anomalies ou ce qui restait des anomalies dont avait souffert cette dame.
Encore une affaire très intéressante, hein, puisque là, il y a réellement des preuves physiques, en tout cas des signes qu'il s'est bien passé quelque chose, y compris des signes pathologiques, hein, ce qui n'est pas rare d'ailleurs. Hein.
C'est pas très rare, mais c'est quand même assez rare, en particulier si on considère l'ensemble des cas connus de l'automne 1954 en France. Je n'en connais guère qu'un autre, à première vue, qui comporte des séquelles physiques chez les témoins.
Mais dans l'histoire de l'ufologie, les rencontres rapprochées peuvent quand même parfois donner lieu à des traumatismes sévères, je dis.
Oui, ouais. C'est un des angles sous lesquels il est intéressant d'étudier le phénomène. Quelques dizaines ou centaines de personnes ont eu à subir des effets le plus souvent très désagréables à la suite de ces rencontres. Mais il ne faudrait pas pour autant s'inquiéter outre mesure de ces choses-là. Bien entendu, ce n'est pas réjouissant, mais le nombre des cas connus est plutôt de nature, sinon à nous rassurer, du moins à calmer notre possible angoisse. On connaît environ 200 cas, ça n'est qu'un ordre de grandeur, mais à quelques pourcents près, c'est ce qu'on peut dire, de cas de personnes qui ont eu à souffrir physiquement de ces incidents. Et une moitié environ de ces cas sont des cas brésiliens. Alors ça peut paraître d'autant plus étrange qu'on ne voit vraiment pas pourquoi, mais c'est ainsi. La moitié, ou à peu près la moitié, des cas de dommages physiques aux personnes se sont produits dans le nord-est du Brésil, dans la région qui va de l'embouchure de l'Amazone à la pointe du Brésil, à l'extrémité est du Brésil, dans la deuxième moitié des années 70. Ouais, d'ailleurs, okay. C'est un sujet qui est assez bien documenté grâce à Jacques Vallée et à Bob Pratt, notamment.
On peut conseiller d'ailleurs le livre de Bob Pratt concernant cette vague brésilienne. C'est un livre que vous avez préfacé d'ailleurs, Joël Ménard. Je crois que c'est...
Ah oui, je m'en souviens. Bob Pratt était un brillant ufologue américain. Il nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Je dis brillant parce que c'était un enquêteur de terrain. C'est pas quelqu'un qui avait des théories sur le sujet. C'est un homme qui allait sur le terrain et qui enquêtait. Il était bien placé pour ça puisque son métier était de fournir des reportages à une publication américaine d'un niveau assez moyen, disons, mais lui fournissait de l'excellent matériel et il profitait de toutes les facilités matérielles que pouvait lui fournir son travail pour le National Enquirer. Et il profitait de ça pour pousser les enquêtes à fond. Et il a notamment enquêté dans le nord-est du Brésil, ce qui a donné lieu à un livre tout à fait remarquable qui s'appelle UFO Danger Zone dans son édition originale. Et cet ouvrage remarquablement documenté a heureusement été traduit en français. Et il est disponible, je crois que l'éditeur est Trajectoire.
C'est Trajectoire, tout à fait, oui.
Et il est disponible en français sous le titre OVNI Danger. Ouais. En plus de cet ouvrage remarquable, il y a aussi un livre de Jacques Vallée, ça doit être Confrontation, au pluriel. Publié chez Robert Laffont, si je ne m'abuse, il y a une trentaine d'années, qui rapporte des éléments nombreux qui ont tout à fait dans le même sens que ceux du livre de Bob Pratt, parce que Jacques Vallée s'est lui aussi rendu sur place et a recueilli le témoignage de nombreuses personnes qui ont eu à souffrir de rencontres rapprochées avec le phénomène. Alors tout ça peut paraître complètement délirant, puisque on est bien tranquille à l'abri des ovnis en France en 2019. Je regarde par la fenêtre, je ne vois aucun ovni passer dans le ciel. Il en est rarement, très rarement question dans les médias. Le sujet est complètement passé au second plan depuis pas mal de temps. Il n'empêche que si on examine la question sur une plus grande échelle de temps, et de préférence à l'échelle de la planète, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu que des périodes de calme comme celles que nous avons la chance de traverser. Il y a eu des périodes de forte activité du phénomène, notamment au Brésil, dans la deuxième moitié des années 70.
Voilà, cette présente édition des Témoins de l'Invisible s'achève. Vous retrouverez dans 4 semaines notre ami Joël Ménard pour une prochaine édition des Témoins de l'Invisible qui continuera de s'attarder quelque peu sur la fameuse vague de l'automne 1954. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Surtout, restez à notre écoute.
Fit as a fiddle and ready for love, I could jump over the moon up above. Fit as a fiddle and ready for love. Haven't a worry, haven't a care, be like a feather that's floating on air. Fit as a fiddle and ready for love. Soon the church bells will be ringing, and I'll march with my ma. How the church bells will be ringing, with a hey, nonny, nonny, and a ha-cha-cha. Hi, diddle, diddle, my baby's okay. Ask me a riddle, and what did she say? Fit as a fiddle and ready for love.